Alors, nous allons commencer tranquillement la deuxième table ronde autour de l'évolution des pratiques des contrôles, du contrôle de l'étranger. Donc, nous repartons un peu sur le même type de discussion, donc 20 minutes par intervenant, suivi d'un débat avec la salle de 30 minutes, avec un timing assez serré. Donc, très rapidement, je vais essayer de présenter les trois intervenants. Donc dans un premier temps, je donnerai la parole à Alexis Spire, qui nous présentera aujourd'hui une intervention intitulée Trier les pauvres, trier les étrangers, pardon. Lapsus révélateur, peut-être. Donc Alexis Spire est chargé de recherche au CNRS, membre du CERAPS. Il a publié notamment, en rapport avec notre thématique ou nos thématiques du festival de cette année, donc Accueillir ou reconduire, enquête sur les guichets de l'immigration. En 2008. En 2007, l'asile au guichet, la dépolitisation du droit des étrangers par le travail bureaucratique, ou encore la fabrique d'une immigration choisie, de la carte d'étudiant au statut de travailleur étranger. Donc à la suite, je donnerai la parole à Jérôme Valouy, professeur de sciences politiques à la Sorbonne. Donc actualité toute fraîche avec la publication d'un ouvrage en 2009 aux éditions du Croquant, Rejet des exilés, le grand retournement du droit de l'asile, et donc différents ouvrages collectifs aussi, avec notamment l'Europe des camps, la mise à l'écart des étrangers. Et enfin, troisième intervention avec Solène Joanneau, donc docteur en sociologie, qui a soutenu sa thèse fin 2009, avec comme titre Les imams en France, réinvention et tentative d'appropriation d'un magistère religieux en contexte migratoire. Donc elle est rattachée à l'unité de recherche migration et société, l'URMIS, et le titre de son intervention sera donc le suivant, droit au séjour et définition du bon imam en pays laïque. Voilà, donc je vous laisse maintenant prendre la parole.
Merci et bonjour à tous. Donc je vais essayer moi aussi de me tenir au titre qui m'a été affecté, le tri des étrangers, essayer de réfléchir à cette notion-là en lien avec la question du contrôle. Peut-être pour commencer, dire que le tri des étrangers, c'est quelque chose d'aussi ancien que la politique d'immigration et ce qui a d'ailleurs été présenté comme nouvelle politique par Nicolas Sarkozy, l'idée d'opposer l'immigration choisie à l'immigration subie, c'est jamais que une autre manière de décliner la vieille opposition entre étrangers désirables, étrangers indésirables, telle qu'on la pouvait la trouver dans l'entre-deux-guerres ou même au début du siècle. Alors évidemment, le tri des étrangers, historiquement, si on remonte justement à l'entre-deux-guerres, il était plutôt fait par le biais de conventions bilatérales pendant assez longtemps, notamment toutes les conventions qui ont eu lieu dans l'entre-deux-guerres, et que durant les Trente Glorieuses, on pourrait dire, c'était coproduit par les employeurs d'une part, par le biais des effets de la croissance économique et des pénuries de main-d'œuvre, et puis par les agents de l'État. Et je pense que si on veut bien alors regarder maintenant la période actuelle, l'une des particularités de la période actuelle, c'est que à mon avis, de plus en plus de pouvoir de tri, de pouvoir de décision est donné aux agents subalternes, aux agents de l'État, aux agents intermédiaires, précisément, alors à la fois pour trier, mais dans une perspective, et là il faut revenir sur la période peut-être la plus récente, hein, depuis 2003, cette pratique de tri, elle est directement orientée vers des objectifs chiffrés en matière de mesures d'éloignement. Et alors peut-être revenir sur justement cette question du tri dans la période très actuelle et le fait que essayer de se demander pourquoi justement on assiste à cette extension du pouvoir des agents intermédiaires. Et de ce point de vue là je rejoindrai en partie l'intervention de Vincent Dubois, hein, sur le fait qu'auparavant les agents jugeaient des statuts et que de plus en plus ils sont amenés à se prononcer sur des comportements, des évaluations, et c'est en cela qu'ils disposent de plus en plus de pouvoirs discrétionnaires. On pourrait prendre plusieurs exemples, hein, le fait que un certain nombre de titres stables comme la carte de 10 ans soit désormais soumis à une condition d'intégration et que cette condition d'intégration s'évalue au terme d'un entretien. Le fait que pour les étudiants étrangers, il faille désormais avoir un entretien avec des agents, des consulats pour expliquer un entretien individualisé pour expliquer la cohérence du parcours d'études, toutes ces occurrences-là montre que justement c'est par le biais de cette de tous ces entretiens individuels que les agents subalternes sont amenés à prendre des décisions. Alors la thèse que je défends dans le livre qui était mentionné tout à l'heure, hein, accueillir ou reconduire, c'est que si ces agents se voient dotés d'un pouvoir de plus en plus important en matière de contrôle de l'immigration, c'est parce que la politique d'immigration par rapport aux périodes antérieures, elle se trouve coincée entre des contradictions, à savoir d'une part un droit international, des conventions internationales qui sont de plus en plus qui sont protectrices et de plus en plus protectrices si on se place du point de vue de la longue période. Et il suffit de penser à la Convention européenne des droits de l'homme, à certaines conventions internationales, d'une part, et puis d'autre part, une politique d'immigration qui, de plus en plus, fait du sans-papier l'ennemi principal, la maîtrise des flux migratoires, l'alpha et l'oméga de la politique d'immigration, et du même coup, se pose la question de savoir, il faudrait parler aussi de la promotion de l'état de droit et de la notion d'état de droit, la contradiction, c'est précisément comment, pratiquer une politique du chiffre en matière d'éloignement tout en affichant un respect formel de l'état de droit, comment faire mine de continuer à respecter la convention de Genève qui protège le statut des réfugiés tout en stigmatisant l'immigration dite subie et en désignant par là les demandeurs d'asile, ou comment continuer à faire mine de respecter la convention européenne des droits de l'homme et notamment le droit à mener une vie familiale normale tout en plaçant des enfants en centre de rétention, etc. On pourrait décliner comme ça un certain nombre de contradictions. Et l'hypothèse que je fais, c'est que ces contradictions, elles vont se résoudre justement au niveau des guichets et au niveau des agents intermédiaires, au niveau de ce que j'ai appelé la politique des guichets, que j'essaye d'aborder, non pas d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue sociologique par les outils de la sociologie. Alors, je vais peut-être juste passer en revue justement en quoi consiste ce tri et quelles sont les notions qu'on rencontre. Lorsque j'ai fait mes observations, moi j'ai travaillé pas mal en préfecture, notamment par le biais d'une observation participante. C'est comme ça que j'ai démarré mon terrain en fait, en passant de l'autre côté du guichet et en me faisant embaucher comme guichetier vacataire. Et ensuite j'ai travaillé dans les directions départementales d'emploi et de la main d'œuvre et puis dans les services des visas justement, dans un service des visas d'un consulat à l'étranger, hein, où on voit déjà que, par exemple, c'est intéressant de voir que la frontière, infranchissable, qui est souvent présentée par le pouvoir politique entre immigration régulière d'une part, qui doit être intégrée, et immigration irrégulière d'autre part, celle à laquelle il faut s'attaquer et qu'il faut éloigner du territoire. En fait, on voit bien en faisant du terrain que la frontière est extrêmement poreuse et que ça soit quand on s'attaque au dossier individuel ou précisément à l'observation des pratiques, que avec la précarisation du séjour et le fait que de plus en plus d'étrangers sont mis en possession de cartes provisoires, il y a des passages par l'irrégularité qui font que il n'y a pas d'un côté les irréguliers, les clandestins, et de l'autre les réguliers, mais que justement toute la force de la politique actuelle, c'est d'avoir réussi à créer une instabilité, une précarité juridique et une instabilité, une insécurité juridique, hein, pour parler comme les juristes, précisément en donnant un très grand pouvoir à ces agents, et qui fait que un étranger qui souhaite régulariser sa situation ou même parfois renouveler son titre, quand il entre dans la préfecture, il est impossible de savoir pour lui, et ni même d'ailleurs pour son avocat ou pour les associations qui l'accompagnent, s'il va en ressortir avec un titre de séjour ou avec une obligation à quitter le territoire. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, évidemment, si on se place du point de vue des directions départementales de la main-d'œuvre, on voit que l'une des nouveautés de la période actuelle, c'est que même si c'est atténué par l'effet de crise économique actuelle, l'une des nouveautés, c'est le retour à une immigration de travail après plusieurs, plus, depuis 1974, disons, après une suspension qui a duré plusieurs années, cette idée d'assujettir le contrôle aux besoins économiques, aux besoins des entreprises, où on voit... par ce biais-là, là aussi toutes les déclinaisons possibles, hein, et l'enquête qu'on avait faite justement sur le passage du statut d'étudiant étranger au statut de travailleur montrait très bien que la plasticité des pratiques et les différences de traitement entre d'une part les étrangers qui étaient embauchés dans des entreprises publiques, notamment des hôpitaux publics et qui demandaient leur autorisation de travail, et d'autre part ceux qui se situaient sur le marché privé. Mais j'ai pas le temps de rentrer dans les détails. J'en viens aussi, alors pour terminer ce tour d'horizon, au service des consulats, où là ce qui est très frappant, là aussi, hein, l'activité de tri, elle consiste... dans les services des consulats, prendre énormément de décisions. Là, moi, quand j'ai fait mon observation, c'était dans la période estivale, hein, où sont demandés les visas tourisme, où on a jusqu'à, disons, justement, dans un service d'un pays d'émigration vers la France, jusqu'à 450 demandes de visa par jour qui sont instruites, avec très peu d'agents, deux ou trois agents seulement, qui sont habilités à traiter ces demandes. Et donc, du coup, ça instaure la question du tri et la question de la décision de façon extrêmement routinière, où on a énormément de décisions qui se prennent par jour sur, là, en l'occurrence, une notion, là aussi, très plastique et très floue, à savoir celle de risque migratoire, et avec tout ce que ça comporte, justement, comme faisceau d'indices ou de la difficulté à évaluer le risque migratoire quand on traite les dossiers de cette façon-là à la chaîne. Alors, les caractéristiques communes de ces trois institutions, je passe vite, hein, mais c'est quelque chose sur lequel je me suis un peu attardé, hein, c'est le fait que ces services-là occupent une place plutôt de relégation dans l'administration et qui est à l'image presque, j'ai envie de dire, de la position des étrangers dans la société française, où on voit que les services étrangers des préfectures sont souvent les plus mal lotis en matière de conditions de travail et de conditions d'accueil. Idem pour les services de la main-d'œuvre, et alors encore plus vrai pour les services des visas dans les consulats. Et où il y a cette conscience de la part des agents, en fait, hein, d'être dans une position de relégation dans l'administration. Et cette conscience de la relégation, elle est associée au sentiment d'être investi d'un pouvoir de décision très fort. Hein. J'ai parlé tout à l'heure d'agents des services des visas qui peuvent prendre jusqu'à 100 décisions par jour. Et ce pouvoir de tri, ce pouvoir de décision, évidemment, il est au cœur de l'activité professionnelle de ces agents. Et ce qui fait que cette combinaison improbable des deux, qui est spécifique, à mon avis, au service d'immigration, même s'il y aurait des éléments de comparaison, sans doute, avec justement les services qui administrent la misère, fait de ces agents ce que j'ai appelé des dominants-dominés, parce que précisément du fait de leur, à la fois du pouvoir qu'ils ont sur les dossiers et sur les étrangers, et de la position qui est la leur dans l'économie des pratiques. Alors, ensuite, il faudrait dire quand même quelques mots sur la façon dont on apprend à trier et sur dans ces services. Et là aussi, je vais en dire quelques mots à partir de cette expérience, puisque l'intérêt d'avoir été embauché comme guichetier, c'est aussi d'avoir été socialisé à cet univers professionnel où il a fallu que j'apprenne comment on fait pour trier, pour contrôler les étrangers. Je pense que la particularité, précisément, de cet apprentissage, c'est que c'est l'apprentissage dans une matière qui est extrêmement, a un contenu juridique extrêmement fort, extrêmement dense, fait de conventions internationales, fait de règles de droit nationales, de jurisprudence administrative, et d'une part, et puis d'autre part, justement, une formation qui est totalement absente, alors qui se retrouve là aussi, hein, dans d'autres services d'administration sociale. Mais j'ai envie de dire, dans le cadre des services d'immigration, c'est cet écart entre, d'une part, les exigences en matière de connaissance du droit et les connaissances concrètes, précises des agents, extrêmement... l'écart est, disons, extrêmement fort. Et du coup, à défaut de maîtriser les instruments juridiques, les agents sont contraints de s'en tenir à des normes bureaucratiques, à des routines qui sont enseignées par la hiérarchie et qui s'écartent parfois, même, voire qui contredisent les règles de droit en vigueur. Et alors, c'est d'autant plus fort que ce qui est frappant aussi, c'est que dans ces services, on pourrait dire que l'institution organise l'affluence, voire la, on pourrait presque dire la submersion de ces services. Alors de deux façons. D'abord par la loi, parce que il suffit de penser justement à des réformes. Alors des réformes qui sont absolument pas débattues publiquement, qui apparaissent très techniques, mais qui ont des conséquences considérables, comme par exemple le fait que les étrangers ne puissent plus avoir accès à la carte de 10 ans au bout de 3 ans, mais au bout de 5 ans. Et alors là, typiquement, c'est difficile à faire comprendre, beaucoup plus difficile d'engager un débat public là-dessus que sur la question des tests ADN, par exemple. Et en même temps, ça a des conséquences considérables parce que ça va faire revenir des étrangers en préfecture beaucoup plus longtemps et que c'est une parmi d'autres, parce qu'il faudrait parler plus généralement de la précarisation du séjour et du fait justement qu'en organisant la précarité du séjour, on organise aussi l'affluence dans ces guichets. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est toutes les normes d'organisation du travail, hein, que ça soit le contingentement des tickets, les heures d'ouverture, etc., qui là aussi ont une fonction, c'est d'entretenir en permanence l'idée que l'administration est submergée. Et cette idée-là, elle a une conséquence directe sur là aussi la façon de concevoir son métier de la part de la part des agents. Donc je l'ai dit, une distance, on pourrait dire, alors un rapport artisanal au droit de la part des chefs de bureau, une distance très grande au droit, voire parfois une méconnaissance de la part des agents des guichets, même si c'est pas eux qui décident, hein, on pourrait dire la même chose des rédacteurs et de toute la chaîne bureaucratique qui conduit à la décision. Hein. Et donc, en l'absence de, disons justement, de connaissances juridiques ou de rapport aux critères de droit, les agents sont contraints, je l'ai dit, de s'en remettre à des normes. Et ces normes, elles sont pétries de morale. Et c'est ce qui fait que, souvent, ce tri des étrangers, ce contrôle de l'immigration, il prend une dimension morale avec, au cœur de ce travail-là, la question de la fraude. Et donc là, on va retrouver des éléments qui ont été soulevés tout à l'heure au sujet des populations en situation de précarité sociale, avec à ceci près, à mon avis, qu'on peut dire que la question du contrôle de l'immigration a presque servi de cheval de Troie à la conversion généralisée, disons, à la lutte contre la fraude dans l'ensemble de l'administration. Il suffit de se souvenir que la question des faux touristes en matière d'immigration, elle émerge dès les années 70, qu'on a ensuite dans les années 80 la thématique du faux réfugié qui va émerger et puis qui va se décliner ensuite en faux demandeur d'asile jusqu'à aujourd'hui où on en est au faux conjoint, aux paternités de complaisance. On voit que tout ce qui était considéré auparavant comme susceptible de fabriquer de l'intégration, le fait d'être conjoint de français, le fait d'être parent d'enfants français, se trouve retourné ou en tout cas soupçonné comme détournement de procédure ou comme fraude. Et là aussi, ce qui est, je rejoindrai ce que disait Vincent Dubois tout à l'heure, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire que la fraude n'existe pas, bien évidemment, elle existe, mais elle prend une proportion considérable par rapport à la part qu'elle a. Et si elle prend cette proportion considérable, c'est parce qu'elle mélange en fait tout un tas de situations pratiques et de cas, et en particulier, elle mélange la question des stratégies de séjour que peuvent avoir les demandeurs et la question du détournement de procédure et la question du faux et de la falsification. Alors, sans rentrer dans le débat de la question de la fraude forcée et des possibilités qui existent pour ces étrangers de se maintenir sur le territoire, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est propre à cette administration. Et si on fait des comparaisons avec l'administration fiscale, par exemple, en matière de contrôle fiscal, où on a là aussi une activité régalienne de l'État, on voit que les agents, les contrôleurs d'impôts passent leur temps à essayer de faire la part entre ce qui relève de la stratégie, de l'optimisation fiscale et ce qui relève de la fraude, ce qui n'est pas du tout le cas des services d'immigration. Voilà, je vais passer vite. Alors en abordant évidemment la question, mon dernier point qui est la question de la politique du chiffre et justement de la façon dont le tri est reformulé à l'aune de la politique du chiffre. En précisant que cette politique du chiffre, elle n'est pas nouvelle, hein, ça fait très longtemps, disons que les administrations des étrangers sont soumises à des normes statistiques. Disons très contraignante du point de vue de l'instruction des dossiers de séjour. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle s'applique depuis 2003 aux mesures d'éloignement, aux mesures effectives d'éloignement. Et donc, elle conduit à des situations nouvelles, à des pratiques nouvelles. Là aussi, alors, il suffit de penser aux arrestations des enfants à l'école, à le placement des familles en rétention, aux convocations pièges au guichet, où ça, toutes ces questions, enfin toutes ces nouvelles pratiques posent la question de la façon dont les agents vivent ces nouvelles injonctions. Avec alors peut-être sur cette question du tri, insister sur le fait que on a une espèce de balkanisation ou la décomposition d'une chaîne bureaucratique qui permet de spécialiser les tâches et avec pour effet de déresponsabiliser chaque agent, où en fait quand on pose des questions justement sur le sens de la mission des agents ou le sens de leur métier, on a très souvent des réponses du style je suis qu'un maillon de la chaîne. Et ça, je pense que c'est très très important. Il y a à la fois l'idée pour faire vivre cette machine bureaucratique qui est de plus en plus tournée uniquement vers l'industrialisation et la rationalisation de l'éloignement des étrangers. Il y a d'abord l'idée que de l'immigration choisie et du fait que de quelques régularisations au compte-gouttes qui ont pour effet d'entretenir l'idée d'une politique équilibrée, et que parce que c'est très difficile de faire appliquer à des agents une politique qui refuse ou qui éloigne en permanence. Et donc ce qui permet justement aux agents de faire adhérer les agents à cette mission, c'est aussi de dire que on peut en sauver quelques-uns par la régularisation. Ça, c'est la première fonction. Et puis ça permet d'entretenir la sécurité juridique que je mentionnais tout à l'heure. Et puis aussi donc cette déresponsabilisation dans les tâches de chacun, et avec des conséquences. Alors cette politique du chiffre et du tri associé à la politique du chiffre qu'on va retrouver, et là c'est une particularité aussi de la période récente, hein, dans les juridictions administratives et dans la manière d'instruire les dossiers de recours qui sont déposés par les étrangers, où de plus en plus, comme les juridictions administratives sont totalement submergées par les recours, et là aussi, à défaut de moyens suffisants, elles sont conduites à de plus en plus adopter les pratiques de tri qu'on voyait, depuis pas mal de temps, s'installer en préfecture, et voilà, des pratiques de tri avec notamment déléguer à des personnels moins qualifiés, les questions simples en matière de contrôle de l'immigration, précisément pour se consacrer alors à d'autres questions, des questions de droit plus sérieuses ou plus compliquées. Et du coup, ça a des effets évidemment là aussi sur les chances des étrangers de se maintenir sur le territoire. Dernier point sur un autre aspect en lien avec l'exposé de ce matin, c'est l'enrôlement des autres fonctionnaires dans cette politique de focalisation sur l'immigration irrégulière, où là aussi je pense que c'est un trait particulier de la période récente, c'est le fait que c'est l'enrôlement, de catégories de fonctionnaires et dans cette croisade contre l'immigration irrégulière, avec de plus en plus, alors que ce soit les médecins inspecteurs de santé publique qui sont chargés de se prononcer sur les certificats médicaux pour que les étrangers malades puissent se maintenir sur le territoire, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit les inspecteurs du travail, qui là aussi sont utilisés pour... parfois ouvrir la porte au sens propre du terme, hein, aux services de police en matière de contrôle de l'immigration sur les chantiers, les agents NPE en matière de là aussi, qui sont soumis à de nouvelles injonctions pour signaler aux préfectures les cas d'immigration irrégulière. On voit que précisément, hein, de plus en plus de catégories de fonctionnaires se retrouvent enrôlés et ont des capacités de résistance plus ou moins grandes selon les traditions professionnelles, selon les corps de métier. Les contrôleurs du travail, les inspecteurs du travail, par exemple, c'est un bon exemple de corps de métier qui a extraordinairement bien résisté à cette injonction-là, là aussi parce qu'il est, en raison de la présence syndicale et en raison de toute une tradition d'autonomie et d'indépendance de cette profession, beaucoup plus que d'autres professions ou d'autres corps d'agents qui sont beaucoup plus exposés à cette maîtrise. Il suffit de penser aux agents des guichets de poste, où là il n'y a même parfois pas d'injonction et où la dénonciation est spontanée. Hein. Pour conclure, parce que je crois que sinon je vais dépasser mon temps, je voudrais juste mettre une expression en débat. Alors évidemment, il faudrait développer beaucoup plus que ce que j'ai fait dans cet exposé un certain nombre de points. mettre une expression en débat à la fois sur le plan scientifique et sur le plan politique, c'est l'expression de xénophobie d'État. Est-ce que, au terme de ce panorama, le panorama que j'ai dressé, on peut parler de xénophobie d'État? Et puis, comme c'est l'expression qui va être utilisée dans l'intervention suivante, ça peut permettre de justement d'introduire la discussion. Je suis un peu gêné, moi, en fait, par cette aussi. Alors voilà, c'est aussi une manière aussi de mettre une nuance dans mon exposé. Je suis un peu gêné par cette expression. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, à la fois d'un point de vue scientifique et d'un point de vue politique, je pense que d'abord, elle fait abstraction des contradictions qui peuvent exister à l'intérieur de l'appareil d'État. Alors, il y a des contradictions juridiques que j'ai énoncées tout à l'heure, et le fait qu'il existe, que la France reste, soumise à des règles de droit international, et que ça a des conséquences juridiques, et ça donne des possibilités de recours qui sont très importantes. Voilà. Ça, c'est le premier point. Mais même, je dirais plus, alors peut-être plus pour revenir sur mes recherches, c'est que. L'expression xénophobie d'État, elle tend à accréditer l'idée, et je pense qu'on peut avoir le débat au-delà de la question de l'immigration sur le contrôle de la misère, elle tend à accréditer l'idée que finalement il y a un appareil d'État qui est extrêmement répressif et il y a des agents qui font vivre cette répression. Or, justement, ce que j'essaye de montrer dans le cadre de mes enquêtes sur les services de contrôle de l'immigration, c'est que dans tous ces services que j'ai décrits, que ce soit dans les préfectures, dans la direction départementale de la main-d'œuvre ou dans les services des visas, on a des catégories d'agents qui sont réfractaires à ces injonctions, à cette politique du chiffre. Alors évidemment, ça recoupe parfois la question du syndicalisme, la question de la syndicalisation, qui sont réfractaires et du même coup qui essayent d'imposer ou en tout cas une autre définition de leur travail. Et je pense que ça se pose aussi pour les autres administrations de contrôle. Et du coup, je me dis, est-ce que, alors d'un point de vue scientifique. Du coup, c'est une expression qui apparaît contestable, outre le fait que ça confond, à mon avis, quand même la question de l'État et du gouvernement. Mais d'un point de vue ensuite politique, le fait que, est-ce que, disons, dans la, puisque c'est des rencontres qui associent le souci scientifique et les exigences politiques. Est-ce que, d'un point de vue politique, on n'a pas plutôt intérêt sur ces questions de contrôle qui sont quand même, disons, de plus en plus consensuelles, de plus en plus martelées, à essayer de construire aussi un rapport de force qui soit à l'intérieur de ces appareils d'État, justement en s'appuyant sur les agents syndiqués, les personnels réfractaires, qui permettent de construire un rapport de force qui ne soit plus seulement d'un côté des associations politiques constituées en tant que telles et qui s'érigent contre l'appareil d'État, parce que c'est aussi parce que je pense qu'il faut réfléchir à la période qui vient de s'écouler, aux défaites aussi qu'il y a eu, et donc il faut peut-être essayer de nouvelles choses. Et je pense que il y a une très grande solitude en fait de ces agents-là, qui sont même souvent pas toujours, disons, soutenues comme il faudrait, y compris quand elles sont syndiquées par leur syndicat, par leur confédération syndicale, et que je pense qu'il y a tout intérêt, en tout cas, à construire un rapport de force en tenant compte de ces contradictions et de la présence de ces personnels à l'intérieur de ces services. Voilà, merci.